de ce panel et quand la musique est bonne. Alors, je tiens à vous dire tout de suite, pour vous mettre à l'aise, il ne sera pas question de Jean-Jacques Goldman. S'il y avait des fans, il est temps de quitter la salle, on n'en parlera pas du tout. Voilà. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent les auteurs. J'essaie, je suis peut-être un peu autoritaire, mais non, ça va.
Moi, je me casse, alors.
Quand la musique est bonne, Jean-Jacques Goldman, Jean-Marc. Non, mais quand le titre, quand la musique est bonne, c'est pas grave. Bon. Alors, sont nos invités ce matin Karim Berouka, qui est l'auteur de, je vais toujours avoir du mal avec ce titre, Les ballons dirigeables, rêvent-ils de poupées gonflables, qui est son dernier recueil de nouvelles. Dernier et premier, donc. Jean-Marc Ligny, avec dernièrement Exode chez La Talente, et puis des participations à Bifrost notamment, dont on va parler, parce que je pense que c'est un peu dans le thème, et qui est un auteur de science-fiction qu'on ne présente plus. Karine Herzenfeld, je suis désolée, j'aurais dû commencer par vous, mais bon, c'est pas grave. Avec sa dernière série qui s'appelle Phoenix, et où la musique a une place assez importante. Et puis Sir Cédric, avec plusieurs incursions dans le monde musical, mais je pense qu'on peut surtout parler du jeu de l'ombre, peut-être, avec un héros qui... Enfin, on parlera de ce que vous voudrez. Bien, alors, ma première question, et peut-être pour orienter dans un sens, on pourra orienter sur une autre thématique un peu après, mais est-ce que pour vous, la musique est une source d'inspiration? Est-ce que vous écrivez suite à un morceau que vous avez entendu? Est-ce que ça construit votre imaginaire d'écrivain ou c'est juste un accessoire? Qui veut commencer?
Moi, je dirais que plutôt qu'une source d'inspiration, en ce qui me concerne, du moins, la musique est plutôt une source de... un créateur d'ambiance, en fait. Dans le sens où je mets assez souvent de la musique quand j'écris et que je vais choisir cette musique en fonction de ce que j'écris, en fait. Et c'est un peu comme la bande-son du film qui se déroule dans ma tête et que je retranscris sous forme de mots.
C'est bien, j'ai une question en moins, déjà.
Et donc, effectivement, j'ai des genres musicaux de prédilection, évidemment, au quotidien, je dirais, enfin, hors temps d'écriture. Mais quand je suis sur un roman, je vais effectivement sélectionner, précisément dans ma vaste bibliothèque iTunes, les morceaux ou le genre musical qui va correspondre à tel ou tel passage. Selon que, par exemple, c'est une scène d'action violente, je vais plutôt choisir du rock assez speed. Si je suis dans une description plutôt bucolique, etc., je vais plutôt choisir du folk. Bon, il y a une exception, c'est quand j'ai écrit La mort peut danser, qui est entièrement basée sur la vie et l'œuvre du groupe Dead Can Dance, où là, effectivement, j'ai écouté à 98% exclusivement Dead Can Dance. Mais pas que, malgré tout, parce que ça avait beau tourner en boucle, même les meilleurs morceaux finissent par lasser au bout d'un moment. Donc, voilà, je dirais que c'est... Là, effectivement, la musique a été une source d'inspiration dès le départ, quoi. J'ai décidé d'écrire un roman basé sur l'impression que m'avait fait le groupe Dead Can Dance sur scène, et sur ses albums, etc. Mais sinon, ça peut l'être également. Dans AquaTM, par exemple, j'ai un groupe qui passe, qui fait des apparitions de temps en temps, qui est un groupe de trash metal absolument abominable qui s'appelle Kill Them All. Et là...
beau programme. Donc.
Je me suis amusé à faire un concentré de tout ce qu'il y avait de pire dans le genre. Pour dresser le portrait de Kills Em All, j'ai même écrit des paroles de chansons, etc. Là, je me suis bien amusé et puis je me suis bien défoncé les oreilles à écouter des trucs à peu près inaudibles.
Karina, avec Phoenix, on est en plein dedans.
Oui, c'est vrai que
que comme Jean-Marc, souvent la musique m'accompagne dans l'écriture. J'adore, quand j'écris, écouter des musiques de films qui, je trouve, vont pouvoir transmettre les émotions comme dans un film, avec des scènes plus douces, des scènes plus d'action. Et là, parfois, quand j'écris une scène avec une musique qui correspond exactement à l'ambiance, je vais la mettre en boucle. Et puis pendant toute l'écriture de la scène, c'est la même qui va rythmer mon écriture. Mais avec Phoenix, là, plus qu'une source d'inspiration, c'est devenu un acteur. La musique est devenue vraiment un acteur du livre. C'est un personnage à part entière dans le livre. C'était un choix délibéré. C'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, d'associer une musique avec des mots. Et donc, ça a été mis en place dans ce livre de façon très concrète, avec une playlist. Il y a un flashcode au début du livre, comme ça le lecteur peut écouter toute la musique qui sont dans le livre, puisque j'ai essayé d'associer systématiquement des mélodies et des paroles qui vont avec les émotions des personnages. Donc ça a été parfois de longues heures d'écoute pour trouver la chanson idéale où l'ambiance musicale et les paroles vont coller exactement à la scène qu'il y a dans le livre. Alors je ne les balance pas comme ça. Tiens, si je mettais une musique au milieu d'une scène, il y a à chaque fois un prétexte qui va amener cette musique à cet endroit-là du livre. Et voilà. Alors, c'est un pari un peu risqué parce que ce sont mes goûts musicaux et ça ne veut pas dire que ce sont les goûts de tous les lecteurs et de tout le monde. Cela dit, jusqu'ici, j'ai eu des retours hyper positifs où des gens ont découvert des chanteurs ou des groupes qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ont bien aimé. Je mets beaucoup de classiques aussi. Ça, pour plein de gens, c'était une découverte. Il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas de classiques du tout et qui m'ont dit finalement, ça m'a plu, c'était bien écouté, ça m'a fait découvrir des morceaux. Et donc on a mis le flashcode en début du livre, donc les gens qui ont un smartphone peuvent flasher le code, accéder directement à la playlist de chaque livre, du tome 1 et du tome 2, sur Deezer ou sur Spotify, ce qui est... et il y en a plein qui ont écouté la BO du livre en même temps qu'ils lisaient le livre.
D'ailleurs, est-ce que c'est pas une nouveauté ou quelque chose qui commence à s'imposer dans l'univers littéraire, le fait d'associer la musique forcément aux écrits, ne serait-ce que parce que maintenant on propose des teasers de livres, il y a des vidéos qui mettent en scène les personnages des livres. Est-ce que c'est pas une nouveauté que le lecteur soit amené à connaître un univers musical lié à un livre, enfin, ce qui n'est pas le cas pour un roman de Victor Hugo, quoi.
Je sais pas, moi j'ai jamais eu de bande-annonce de mes livres, je trouve que c'est un phénomène plutôt américain. Moi, j'ai découvert cette tendance dans la fanfiction, où souvent, puisque c'est complètement libre et les gens font ce qu'ils veulent, c'est leur fanfiction, il n'y a pas d'obligation de droit, c'est l'internet, on met en ligne son histoire, qu'on sache écrire bien ou pas, c'est pour le plaisir. Et souvent, les auteurs de fanfiction mettent la musique qui les a bercés pendant l'écriture d'une des parties en début. Et j'ai trouvé que c'était intéressant et ça rejoignait une envie que j'avais. Je me suis dit, puisqu'ils le font, pourquoi pas pousser cette idée jusqu'au bout, ou là, pas juste mettre en début de chapitre une chanson qui dit, voilà, ce chapitre, je l'ai écrit en écoutant cette chanson, mais en disant, dans le chapitre, je vous mets des musiques qui vont accompagner les émotions, les sentiments et les actions de mes personnages.
Sir Cédric, pour vous, quand on fait perdre l'ouïe à un musicien, est-ce qu'on ne torture pas son personnage à fond, là où juste où ça fait mal?
Si, c'était l'idée, c'était de prendre quelqu'un qui a une passion dans la vie et de lui enlever la capacité de jouir de cette passion-là. Mais en fait, pour rebondir sur ce qui a été dit, je suis assez d'accord en fait, avec ce que vous avez dit tous les deux. Il y a également, à mon avis, une autre façon d'écouter de la musique, pour, je pense, de nombreux auteurs, c'est que ça nous coupe réellement du monde, ça nous met dans une bulle. Parce que parfois, ne serait-ce que de mettre des chants d'oiseaux, c'est tout bête, mais ou n'importe quel type sonore autour de nous, ça nous permet de nous couper du monde et de nous permettre de revenir en nous-mêmes pour créer. En tout cas, c'est souvent comme ça que j'utilise de la musique quand moi je crée. Il y a tellement de choses à dire, mais par rapport à la création aussi et ce qui a été dit, je pense que ça varie aussi d'un livre à l'autre et de ce qu'on a envie de faire à un moment donné ou pas, par rapport aux musiques d'ambiance qu'on va écouter pour se mettre dans un certain état d'esprit ou une ambiance de rapidité, de rythme par rapport à un type de prose qu'on a envie de faire à ce moment-là. Et moi, en fait, pour mon tout dernier roman, alors c'est pas évident, c'est pas même comme le lecteur ne s'en rend pas compte quand il le lit, mais le premier sang a réellement été écrit en m'inspirant de structures musicales et pseudo-religieuse de certains groupes de métal, notamment le groupe Behemoth, qui a une certaine relecture de l'Apocalypse, et qui m'a réellement servi de squelette narratif sur tout le roman. Et donc la musique peut vraiment avoir une influence, à mes yeux, très claire, mais parfois pas celle qu'on s'imagine, sur la création. puisqu'il y a même, une scène du roman qui est la pochette du CD, enfin, du vinyle réellement de ce groupe-là, qui est une image de la révélation avec une femme avec une coupe, enfin, la femme écarlate, hein, la putain de Babylone dans la révélation que tout le monde connaît, avec la coupe remplie du sang des saints donc, que l'on retrouve dans le roman. J'ai écrit cette scène en ayant devant moi la gravure sur le mur qui est la pochette en fait, de l'album de ce groupe-là.
Karim, vous écrivez en musique. Vous écrivez avec une ambiance musicale particulière.
Allô. Non, je sais pas. Enfin. Non, je mets de la musique tout le temps en fait à la maison. Et quand j'écris, ben je sais pas, j'entends plus la musique au bout d'un moment. Donc j'avais commencé les premières fois que j'ai écrit, j'écoutais des trucs qu'on appelle des vinyles, enfin des disques quoi. Donc c'est assez sympa, mais au bout de 20 minutes, t'as le truc qui fait. Donc du coup, ça faisait de l'écriture un peu répétitive, donc j'ai arrêté, je voulais pas me lancer dans le nouveau roman. Donc maintenant, j'ai un ordinateur, parce qu'en fait, il y a 12 heures de musique. Mais le problème, c'est que c'est pas un problème, c'est que quand j'arrive à me concentrer pour écrire, je crois que la musique a plus aucune influence, parce que j'entends plus, en fait. Je suis dans le. Après, il y a aussi la possibilité d'écrire avec l'idée d'une musique, avec l'idée de ce que ça porte culturellement ou ce que ça porte personnellement. Ce que j'ai fait dans une nouvelle là, qui raconte l'histoire d'un mec qui se barre dans le métro et qui rencontre des fantômes. Enfin, il rencontre le fantôme de Jimi Hendrix, de Claude François. Ça, c'est un grand moment. Mais j'écoutais pas Claude François quand j'ai écrit ça, parce que sinon, je pense que je serais jamais arrivé au bout. Voilà, donc voilà. Donc non, moi, ça m'influence pas, mais bon, ça fait partie de ma culture quand même.
Mais
pas mal,
je pense que, en fait, ça doit t'influencer d'un niveau inconscient. Moi, c'est pareil. Au bout d'un moment, la musique, je l'entends plus. Mais comme dit Cédric, ça crée une bulle autour de soi qui permet de se couper des sons du quotidien. Et effectivement, une fois concentré dans le bouquin, la musique, des fois, je peux mettre un album et puis 5 minutes après, il est fini. Je ne m'en suis pas rendu compte. En fait, il s'est écoulé 1 heure. Je ne l'ai pas entendu. Enfin, je ne l'ai pas écouté, mais je l'ai entendu, je pense. Il a pénétré en moi d'une façon inconsciente. Et je pense que certainement, il a influé sur mon rythme d'écriture. C'est pourquoi je l'ai choisi. Par exemple, je ne peux pas écouter quoi que ce soit de chanter en français quand j'écris. Sinon,
C'était un peu ma question suivante. Est-ce qu'il y a des musiques polluantes, c'est-à-dire qui vous empêchent d'écrire
chanté en français, moi, ça me pollue l'esprit. Je vais retrouver des paroles de la chanson dans ce que j'écris. Donc, ça ne va pas le faire. Ou alors, je vais écouter et je vais arrêter d'écrire.
Karim va nous mettre un peu de musique, d'ailleurs. Ça aurait été bien ce panel soit en...
Et merde, maintenant je vais chanter.
J'ai cru que c'était danser. Donc Jean-Marc, pardon. Effectivement, donc il y a des musiques vraiment polluantes, des choses qui empêchent d'écrire. Moi, je me disais qu'avec des paroles, c'était peut-être un moment compliqué de se sortir. Alors évidemment, on n'écoute pas de musique qu'on n'aime pas, sauf si vous êtes un peu masochiste pour écrire. Mais il y a peut-être un moment où c'est gênant.
Moi, le problème, c'est que j'adore chanter. J'ai fait beaucoup de chorale parce que j'ai une formation musicale très importante et d'instruments et de chorale. Et j'adore chanter. Et si je mets des paroles et que j'arrive pas à rentrer justement dans cet état un peu second de concentration où la musique passe en second plan où je l'écoute plus, j'ai envie de chanter en même temps. Et alors écrire et chanter, c'est pas possible. Donc du coup, je mets beaucoup. C'est pour ça que je parle beaucoup de musique de film parce que là, il y a que des instruments, il y a des émotions qui passent, des fois très punchy, des fois très douces. Il y a un groupe que j'adore qui s'appelle Two Step From Hell où là, c'est des musiques très courtes, mais alors parfois avec des ambiances bien carabinées. Et là, ça m'emmène très loin. Moi, j'écoute pas de trucs métal et tout. Je suis désolée, je suis pas du tout dans ce. Et du coup, c'est vrai que j'évite les musiques à paroles, que ce soit en anglais, en français, même en arabe ou en chinois, parce que sinon je répète, même si je comprends rien, je répète les sons. Et voilà, donc, je suis trop liée au chant pour pouvoir écouter ce genre de musique. Donc c'est que de l'instrumental, c'est que de la musique d'ambiance, c'est que classique, de film, des choses qui vont passer comme ça, comme le dit Jean-Marc, en un moment en toile de fond et qui va m'accompagner dans l'écriture, mais d'une façon complètement limpide, où ça rentre pas en ligne de compte et pas de pollution sonore à ce niveau-là.
Sir Cédric ?
Oui, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que quand on aime trop un morceau, on a tendance à le chanter ou à arrêter de se concentrer pour l'écouter réellement. Non, juste pour rebondir là-dessus, j'écoute pas que du métal.
Non, mais est-ce que vous en parliez dans vos livres ? Moi, c'est pas.
Non, et. Parce que toutes les musiques ont vraiment des qualités différentes. Et d'ailleurs, pour revenir à nouveau sur le premier sang, j'ai écouté réellement deux groupes. Hein. Enfin, l'autre, deuxième, pas vraiment groupe, mais. Behemoth, dont j'ai parlé, et David Lynch, le réalisateur de cinéma, qui avait sorti un album cette année-là, et que j'ai eu deux musiques électroniques, minimalistes, très répétitives, et que j'ai écouté, sur 60% durant 60% de l'écriture auprès du livre. Et où c'est vraiment, voilà, les minimalistes, répétitifs, donc ça nous met réellement dans un état de presque auto-hypnose que parfois on recherche quand on écrit.
Je me demandais, est-ce qu'il y a des romans qui sont pour vous silencieux, c'est-à-dire des moments d'écriture ou des moments de l'action que vous dépeignez, pour lesquels vraiment il n'y a pas de bruit, il faut pas qu'il y en ait pour que vous écriviez, et il y en a même pas dans ce que vous écrivez. C'est-à-dire que vous pouvez pas imaginer que l'action ou la scène ou le dialogue, je sais pas, se passe en musique.
Il y a des passages où je ne mets pas de musique du tout. Mais par contre, c'est après, une fois que je sors de l'écriture, je me dis, tiens, je n'ai pas mis de musique. Et je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas de nécessité et que le lien avec la musique n'avait pas besoin d'être là. Et du coup, je n'ai pas eu le réflexe de lancer la musique avant de me mettre à écrire. Et c'est vrai que, est-ce que c'est lié à un besoin de tranquillité parce que dans cette scène, il ne fallait pas de bruit? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est souvent a posteriori où je me rends compte que j'ai écrit 3 heures et j'ai pas mis une note. Et souvent, comme j'écris la nuit, il n'y a pas eu un bruit et c'est le silence total. Et j'en sors d'un seul coup. Et je me suis fait peut-être ma musique dans ma tête, j'en sais rien.
Moi, c'est pareil. Je me rends compte qu'en fait, il y a de plus en plus de moments où j'écris dans le silence. Et comme je vis à la campagne et que je suis pas trop perturbé par les bruits extérieurs, enfin, sauf à la période des foins. Parce que là, la route devant chez moi devient une autoroute à tracteur.
Et ça fait une musique particulière ou...
Non, ça fait un bruit polluant, effectivement.
C'est assez techno, en fait.
Surtout que le chien aboie et tout. Un peu plutôt
rural, mais...
Voilà, industriel, agricole, quelque part. Mais ça peut être un facteur d'ambiance également, hein, pourquoi pas. Hein. En fait, moi, je vais plutôt garder le silence réserver le silence au moment de réflexion quand je réfléchis à ce que je vais écrire. Où là, effectivement, toute musique peut me distraire et me polluer l'esprit parce que là, j'ai besoin de ma capacité intellectuelle à 100%, si je peux dire, quand je suis en train de préparer un chapitre, une scène, de vraiment me mettre dans la peau des personnages, etc. Et une fois que j'ai démarré, à ce moment-là, la musique peut arriver et donc devient le facteur d'ambiance dont je parlais. Mais réfléchir quand il y a du bruit, même de la musique, donc un bruit agréable que je veux sélectionner, j'aurais plutôt tendance, des fois, à laisser mon esprit dériver dans la musique plutôt que de se concentrer sur la scène que je dois écrire.
Alors, pour élargir un peu par rapport à simplement l'univers musical, est-ce qu'on peut passer sur le côté plus du rythme de l'écriture ? Est-ce qu'il y a une musique interne à vos écrits ? Est-ce que ça s'écrit comme de la... Parce que pour ceux qui sont un peu plus... brancher musique au sens solfège, c'est vraiment une écriture, c'est un alphabet le solfège. Est-ce que pour vous, l'écriture, c'est quelque chose comme ça qui s'écrit comme s'écrirait une symphonie ou avec des mouvements, un tempo Est-ce qu'il y a un rythme dans vos écrits qui peut correspondre à un rythme musical?
Des fois, peut-être sur certaines nouvelles, oui. Sur un roman, je ne sais pas, moi je n'ai jamais essayé, de toute façon je n'en ai pas écrit beaucoup. Et je pense que c'est quand même assez difficile à tenir sur plus de quelques pages. Sur des nouvelles, ouais, pour se mettre une sorte de contrainte, on va dire, positive, parce qu'on est des gens très positifs. Mais surtout au niveau du rythme, après le construire comme une symphonie, ça devenir un peu compliqué avec les sortes de thèmes. Mais pourquoi pas, hein. Je pense que va falloir que je cherche dans ma mémoire, voir s'il n'y a pas des écrivains qui ont fait ça. Mais bon, voilà. Why not ?
Alors moi, au contraire, je vois un roman comme une symphonie. Mais en fait, à la
base. Est-ce que tu le construis comme une symphonie?
Oui.
Attention, parce qu'il y a tout un.
Oui, mais la différence fondamentale, c'est qu'un musicien, il compose avec. La matière dont il dispose, c'est les sons. Et un auteur, la seule matière dont il dispose, ce sont les mots, la grammaire. Et avec ça, il faut créer du sens dans un art comme dans l'autre. Et donc, forcément, c'est pas la même chose. Mais à mes yeux, en tout cas, il y a vraiment des ponts. De démarche, de direction. Et dans un roman, justement, quand on a plusieurs points de vue, par exemple, plusieurs personnages, par rapport au thème que tu évoquais, ouais. La disposition des chapitres où ils vont intervenir, leur interpénétration, la couleur générale, les mouvements aussi, les mouvements du roman, moi je les vois vraiment comme des mouvements de composition musicale.
Parce qu'une symphonie, c'est très codifié, hein, c'est pas.
Oui, mais il y a une introduction, il y a une coda à la fin. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je pense à mes romans quand je les crée. Oui, tu vois.
C'est le poème symphonique.
Oui, je pense aussi qu'il y a une musique dans l'écriture. D'ailleurs, parfois, quand les éditeurs nous demandent de couper un bout de phrase, moi, je le fais pas parce que je trouve que l'éditeur attend. Non, mais moi, je suis très coulante. Moi, il y a des trucs, mais parfois, je veux pas raccourcir la phrase ou alors je vais changer les mots qu'il m'a demandé de couper et mettre autre chose. Ça casse le rythme de la phrase. Et elle, d'un seul coup, je me dis, non, si je fais ça, elle devient trop courte. Et il y a quelque chose de brisé. Et si je rajoute juste un mot, parfois.
Une bonne qualité.
Oui, c'est ça. Parce que moi, dans ma tête, quand j'imagine la phrase, il y a un sens, il y a quelque chose qui coule, qui va dans une espèce de rythmique qui n'est pas toujours la même. Je ne vais pas compter, c'est pas des alexandrins non plus. Mais c'est vrai que parfois, on me demande de couper une phrase en me disant, tiens, là, les deux derniers mots, ils ne sont pas forcément utiles. Je suis d'accord en soi, hein, c'est pas... Oui, effectivement, la phrase, elle ne perd pas de son sens si on enlève les mots, mais elle perd de son rythme. Et ça me perturbe, vraiment. C'est-à-dire que je n'aime pas la phrase coupée comme ça. Il y a quelque chose, il lui manque un bout. Et la fluidité qui va l'amener à la phrase suivante est perdue. Donc parfois, je suis d'accord pour dire que oui, peut-être que ce mot ne convenait pas, je vais le changer, mais pour garder cette musicalité dans la phrase. Et ça me paraît vraiment indispensable de garder ce sens du rythme interne qu'on a, qui n'est pas forcément visible ni par lecteur ni par l'éditeur, parce que lui, il n'a pas forcément cet impôt et on n'est pas là justement pour leur dire « lisez mon livre comme une musique ». Non, ce serait parce que chacun va l'interpréter à sa façon. Mais moi, j'ai mon rythme intérieur et j'ai besoin qu'il soit respecté dans certains cas.
Et quand ça se voit, c'est que c'est mal fait. Enfin, voilà. Quand le rythme se voit, c'est qu'on l'a loupé.
Mais moi, je pense que le lecteur doit le ressortir d'une certaine façon aussi. C'est ce qui rend un livre facile à lire ou pas, en fait.
Le page-turner, c'est un truc qui a un bon rythme, quoi.
Voilà, déjà, un page-turner a un bon rythme. Et quand un lecteur va juger qu'un livre est bien écrit ou que ça passe tout seul ou que c'est fluide à lire, etc., c'est parce que, à mon avis, l'auteur a pris soin, en général, de faire que comme dit Karina, qu'il y a un bon rythme dans la phrase, que les mots s'assemblent bien entre eux, qu'ils aient une bonne sonorité entre eux aussi, même si personne ne lit à voix haute ou rarement. Moi, je fais toujours attention à la consonance des mots, comme si ça devait être lu à voix haute. Il faut que... Bon, je ne le fais pas, mais je me lis à voix haute dans ma tête, en fait, quelque part, en faisant attention à la résonance des mots, de façon qu'il n'y ait pas de heurts entre des mots, qu'il n'y ait pas des consonnes qui vont se télescoper ou des voyelles qui vont se mélanger, etc., etc. Et ça crée une certaine musicalité de la phrase qui doit la rendre effectivement coulante et fluide comme une chanson, en fait, si on lisait à voix haute. Et même en lisant comme ça des yeux mentalement, eh ben, ça coule mieux, quoi. Les écueils sont lissés, en fait.
Cela dit, l'importance, elle est peut-être parce que, justement, il y a quand même beaucoup de lecteurs, pas tous, mais il y a beaucoup, beaucoup de lecteurs qui vocalisent, c'est-à-dire qui ne lisent pas, qui lisent à voix haute dans leur tête. C'est une vraie... non, mais c'est une vraie façon de lire.
Ouais.
Donc, pour que ça soit une bonne fluidité, c'est une bonne musicalité pour un roman.
Tout à fait, absolument, oui. C'est... Moi, je pense que c'est nécessaire et ça participe du style et de la qualité du style. Après, comme dit Cédric aussi, il y a la construction elle-même du roman qu'on peut bâtir, effectivement, comme une symphonie, comme un album, comme... la structure va dépendre, évidemment, de l'histoire qu'on veut raconter et de la façon dont... Chaque élément de l'histoire va s'imbriquer, les personnages, etc. Et puis, on peut la voir aussi comme une symphonie avec une introduction, un premier mouvement, deuxième mouvement, des interludes, etc. etc. C'est une agréable façon de concevoir un roman. Hein.
Oui, Karine.
Moi, je pousse le vice au point que sur un futur projet sur lequel je suis en train de travailler, il y a le mot symphonie dans le titre que je ne dévoilerai pas encore parce qu'on en est vraiment aux prémices du projet. Puis ça peut très bien se planter.
Enfin, vous avez déjà un mot.
Voilà. Et chaque partie s'appelle pas une partie, s'appelle une partition. Et je travaille en collaboration avec un compositeur de musique qui va écrire chaque partition de chaque partie de mon roman pour avoir à la fin la symphonie du roman. Donc c'est un ouais, je suis super contente. C'est un compositeur qui s'appelle Jérôme Marie. Qui a cette particularité quand il adore la science-fiction et quand il lit un livre de science-fiction, il est compositeur et prof de musique à Clermont-Ferrand, et ben il compose la musique que ça lui inspire. Et donc moi j'ai un roman qui s'appelle Les Clés de Babel et il a écrit la musique des Clés de Babel et il me l'envoie, donc on est rentré en contact, il m'envoie ce qu'il a composé et donc c'est marrant parce que quand j'écoute ça, il y a mon fils qui est derrière et qui me dit c'est la musique de quel film ? C'est la musique de mon livre. Et alors je trouve ça super et en plus il m'a demandé l'autorisation de le faire gentiment et puis il continue à composer ses différents mouvements. Il m'a dit quand ce sera prêt, il y aura un orchestre qui va le jouer, il y aura une chorale, je t'inviterai comme ça, tu viendras assister.
Concert Star Wars.
Ah non, mais ouais, mais c'est génial. Mais alors moi je suis waouh. Et donc je lui ai envoyé un mail en disant voilà, j'ai ce projet. Est-ce que ça t'intéresse de m'écrire la partition de mon roman ? Alors, je ne lui demande pas d'écrire 60 pages de partition, hein, quelques portées pour illustrer ce que je veux apporter dans ce roman qui va être très musical, qui parle surtout de la pas de musique comme dans Phoenix, de chansons qu'on peut entendre à la radio ou en CD, mais plutôt de la musique de la vie, les sons de la vie, les sons du cœur, les sons des émotions. Et donc je lui en ai parlé, il était super emballé par l'idée et donc là je suis presque au bout de ma première partition et donc dès que je l'ai terminée, même si c'est pas encore finalisé dans l'exactitude des mots etc, je vais quand même lui envoyer pour qu'il commence lui à travailler sur sa partition à lui, musicale cette fois.
Bon projet. Est-ce que, Jean-Marc, vous avez parlé de comment se construit la structure. Quand on écoute les auteurs aux Imaginales ou quand on parle avec eux de leurs livres, ils disent souvent que les personnages s'imposent d'eux-mêmes, imposent leurs choix, imposent leurs dialogues, imposent comment ils se comportent. Est-ce que la structure, elle s'impose ? Est-ce que parfois, elle s'impose à vous sans que vous ayez, en se démarquant du synopsis que vous aviez peut-être prévu. Est-ce que là aussi, le rythme du roman, il y a un moment où il prend le pouvoir, ou peut-être que vous êtes de ces auteurs chez qui le personnage ne prend pas le pouvoir. Je ne sais pas, je vous pose la question.
Ah si, moi, mes personnages prennent toujours le pouvoir et je les laisse faire bien volontiers. Et je suis ravi quand ça arrive parce que ça me prouve qu'ils sont vivants. Et donc, des fois, je les vois avec... un mélange de ravissement et de désolation, me foutre en l'air mon plan que j'avais minutieusement préparé, parce que je prépare des plans très minutieux de mes bouquins. Un plan de roman peut faire jusqu'à 30 à 35 pages quand même. Hein. C'est détaillé, chapitre par chapitre, etc. Et en général, arrivé au 2, 3 ou 4e chapitre, ça commence à diverger. Et puis, au bout d'un moment, en fait, je ne suis plus du tout mon plan. Ceci dit, la structure du plan elle-même, pour moi, c'est un squelette
ça bouge pas.
Qui ne bouge pas. La structure, elle est définie au départ. Après, tout ce qui peut se passer dans cette structure, la forme, l'habillage de ce squelette peut revêtir différentes formes qui, elles, va dépendre beaucoup, effectivement, du caractère de mes personnages et de ce qu'ils ont décidé de faire ou ne pas faire. Parce que, bon, moi, je prévois des choses pour eux, mais il faut qu'ils soient d'accord. Hein. Et ce n'est pas toujours le cas.
Karim, est-ce que sur une nouvelle, le rythme s'impose de lui-même ou est-ce qu'il faut le tenir beaucoup plus que sur une distance de roman ?
Je dirais que sur une nouvelle, tous les cas, celles qui sont dans le recueil, c'est des choix, en fait. C'est des choix comme si je décide de faire un truc... totalement avec aucune complexité dans le rythme, ça se passe comme ça. Après, par exemple, j'ai bien vu que dans ton petit carnet, tu avais noté le nom d'une nouvelle qui s'appelle Le Cirque des Ombres, qui parle d'une sorte de cirque où des ombres dansent, et tout est basé sur le rythme et sur la répétition. Donc à la base, c'est une idée. Donc je vais exploiter cette idée-là. C'est sûr que ça ne va pas changer en cours de route, sinon ça fout tout en l'air et il faut que je recommence. Et là, par contre, les persos, je les garde. Et le premier qui dévie, je le fous dehors parce que bon, ça va, c'est ma nouvelle, c'est pas la sienne. Et donc voilà, c'est un choix à la base d'explorer un peu, parce que ce qui me permet la nouvelle, moi, ça me permet surtout d'essayer des choses, de sortir un peu des schémas. Du roman, parce que le roman c'est quand même assez long, donc on va pas faire un truc complètement tarabiscoté. Je pense que les gens vont pas tous accrocher. Sur une nouvelle, c'est plus facile à faire en tant qu'auteur et plus facile à accepter en tant que lecteur. Donc voilà, donc il y a des trucs un peu bizarres avec des jeux sur le rythme, pas forcément sur la musicalité, parce que moi je suis pas complètement convaincu que ça soit musical, sauf effectivement si on se met debout et puis on le déclame, peut-être que ça va venir, comme ce que tu avais fait d'ailleurs. Monsieur a fait des performances derrière un orchestre dans le Magic Mirror 2 où il faisait moins 5 degrés jeudi soir, et tu déclamais d'une façon qui était très musicale, qui était très, très jolie d'ailleurs, et c'est dommage, t'aurais dû nous le faire, on aurait dû ramener la sitar ici, parce que donc ça c'est un choix, mais c'est un choix de lecture. Après t'as un choix d'écriture qui est différent, et est-ce que le lecteur va percevoir cette différence entre au niveau de la structure de la nouvelle, au niveau de du voilà, bon, enfin bref, il faut les lire. Achetez tous les livres qui sont là, lisez-les, puis vous nous mettrez des messages sur Facebook pour nous dire si on a dit n'importe quoi comme d'habitude. Ou, voilà.
Et quelle musique vous avez écouté.
Quelle musique, hein. Et si la musique est bonne.
Allez, on va tous le chanter. Bon, c'est dommage, Alistair Reynolds n'est pas là, mais moi j'avais une question pour lui et qui peut être valable pour vous, puisque vous écrivez tous aussi bien SF que fantasy, ou en tout cas fantastique. Enfin, vous n'êtes pas contraint à une seule partie du genre de l'imaginaire. Est-ce que, comme dans l'espace, on ne nous entend pas crier, qu'est-ce qu'on entend comme musique? Quelle est la musique des étoiles? C'est quoi le...
Il y a des baleines dans l'espace. Ah, et on entend le chant des baleines spatiales.
Le concept est flippant quand même.
Non. Pour Sir Cédric, les baleines dans l'espace, c'est pas. C'est
non,
pas
non,
une bonne
déjà,
idée.
Non, déjà, le chant des baleines sur Terre, c'est
flippant. Mais sans rigoler, il y a eu, ça a tourné. Moi, ça m'a fasciné parce que justement, ça rejoint le projet sur lequel je travaille musicalement actuellement, où ils ont traduit les ondes. Alors, je sais plus, parce que alors moi, je suis pas du tout calée. Les trucs scientifiques, c'est. C'est au-delà de mes capacités. Mais bon, en tout cas, la Terre envoie des ondes et ils ont traduit ces ondes en son et ça ressemble au chant des baleines. Exactement. Ouais, voilà. Mais c'était incroyable. Et en fait, c'était intéressant parce qu'il y avait toute une vidéo faite par la NASA qui expliquait comment ils avaient retranscrit ces ondes qui ne sont pas sonores, hein, qui sont... je ne sais pas quoi, je ne me souviens plus du terme exact. Là, ça m'échappe. Oui, peut-être. Je crois que c'est ça. Je ne suis pas sûre.
De l'espace, non, depuis le Big Bang, un truc
comme non, ça. Non, c'est vraiment le son de la Terre en particulier. Oui, ouais, ouais, c'est les ondes qu'elle renvoie qui ont été retranscrites. Si c'était des sons, qu'est-ce que ce serait? Et ça ressemble de façon exceptionnelle à le chant de la baleine.
C'est Cthulhu.
Voilà, exactement.
Alors au moins sur ce panel, on a résolu un grand mystère. C'est si les extraterrestres viennent pas, c'est parce qu'ils pensent qu'on est tous des baleines ou des Cthulhu et qu'on va leur mettre grave.
Leur race.
Mais c'est gentil les baleines.
On sait pas. Pas pour Sir Cédric visiblement.
T'as eu des expériences avec
chant,
des baleines?
Non, juste leur chant qui est.
Ah, c'est
qui
un peu lugubre.
Dépressif, ouais. Ça, je peux pas écouter ça.
C'est fait exprès. Et est-ce que je pense au personnage d'Eva qui vit des moments un petit peu compliqués. Est-ce que vous imaginez aussi ce qu'elle peut écouter comme musique? Est-ce que vous imaginez ce que vos personnages peuvent écouter comme musique quand l'enquête est un peu terminée?
Oui, mais d'ailleurs ils font des blagues parfois. Enfin, il y a un humour tout le temps dans mes romans, parfois sous la surface. Mais mon commandant Alexandre Vauvert parfois fait des allusions musicales à divers groupes. Il cite dans le prochain roman, ce sera Lana Del Rey. Voilà, donc on comprend ce qu'il écoute aussi à la maison. Non, après parfois, ce qui est amusant aussi, c'est que la musique qu'on écoute s'invite dans le scénario des histoires. Ça m'est arrivé avec Eva justement dans De Fièvre et de Sang, où un groupe que je connais, qui se trouvait des amis, que je venais de voir sur scène, dans le jour suivant d'écriture, s'est invité dans le roman et s'est mis à jouer sur scène dans un club inventé à Paris. Donc il y a aussi une interpénétration de créativité comme ça, qui n'était pas du tout prévue. Et juste pour revenir sur le rythme et les personnages que vous évoquiez tout à l'heure, moi en tout cas, je ne sais jamais où va aller le roman, ce que vont faire les personnages. En revanche, par rapport à cette... Enfin, la musicalité, ce terme me dérange un peu parce que pour moi, dans l'écriture, c'est vraiment pas ça le rapport avec la musique. C'est plutôt le fléchage de sens. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un riff, une mélodie musicale, on va avoir du sens que l'on va véhiculer au travers des mots. Et qu'effectivement, si on coupe une partie de la phrase, une partie du sens va manquer, comme si on coupait une mélodie en plein milieu où l'oreille va comprendre qu'il y a quelque chose qui manque. Et dans la construction de l'histoire, ça se ressent pour moi en tout cas, dans le sens où je crée un chapitre après l'autre, jusqu'à ce que les articulations et la progression soient la plus fluide possible, la plus naturelle possible, même si c'est un artifice absolu, comme la composition musicale, et que du coup le roman se déroule comme si c'était naturel, comme un arbre qui pousse, et qui a une arborescence absolument naturelle. Et ça, je suis incapable de le prévoir en amont. C'est vraiment en fonction de ce que j'ai écrit, de la scène, des phrases, du point de vue, de ce qui s'est produit, qui va me créer en fait la mélodie suivante. Voilà.
Okay. Et est-ce qu'il y a un Bifrost qui est consacré à culture rock et science-fiction, est-ce qu'on peut dire que les genres de l'imaginaire, fantasy, SF, fantastique, est-ce que ces genres-là appellent un genre de musique particulier? Restreint, peut-être pas pour vous, mais d'un point de vue général, et où est-ce que c'est ouvert à tout? Est-ce qu'on peut du Claude François, du Jean-Jacques Goldman, est-ce que tout ça rentre dans nos univers imaginaires, ou est-ce que vraiment c'est tellement ancré dans notre réalité que ça bloque un peu l'imagination?
J'ai quand même l'impression que la culture SF ou imaginaire en général, SF, fantastique, fantasy, ça coquine plus volontiers avec le rock dans toutes ses formes et variétés plutôt qu'avec le jazz, le classique ou l'opéra, bien qu'on ait des morceaux de jazz ou d'opéra qui ont une relation ou une inspiration de type science-fiction.
On pourrait dire que pour les fans de fantasy, le rock, c'est juste un peu anachronique, quoi. C'est pas très quand on parle de fantasy uniquement médiévale ou médiévale fantastique,
c'est pas très rock'n'roll, ouais. Fantasy.
Détrompe-toi, il y a une quantité phénoménale de groupes de métal qui ont une inspiration strictement fantasy. Quand on voit les pochettes, les noms des groupes, les titres des albums, etc.,
L'inspiration, je veux bien, mais sur la réalisation musicale, sur le luth, le côté menuet, enfin les choses un peu légères et au clavecin, et tout ça, c'est pas...
Voilà, moi je pense qu'un amateur fantasy peut aussi écouter certaines musiques folk actuelles, folk avec d'autres vocables derrière, celtique, dark, machin, ceci, cela, plus ou moins modernisé, quoi, plus ou moins électrifié, plus ou moins électronifié, on va dire. Ça c'est parfaitement compatible. Après donc on peut voir aussi le côté de quoi les groupes s'inspirent pour trouver leur nom, leur style, leur genre musical, les morceaux qu'ils composent, etc., où ils puisent leur inspiration. C'est dans les deux sens, quoi, en fait, hein. Ça, c'est pas une transmission à sens unique, loin de là.
Oui,
c'est... Moi, j'ai entendu alors je sais plus quel musicien l'avait dit, et c'était ça m'avait vraiment fait réfléchir. C'était dans le milieu du métal, je pense, mais en fait il avait dit quelque chose qui était très intéressant. C'est que les groupes et souvent le public qui écoute certaines musiques de rock, donc enfin, comme le métal par exemple, ont des influences, enfin ont dans leur goût littéraire et cinématographique la fantasy, les films d'horreur, tout ça, mais que c'est pas réciproque. C'est-à-dire que les groupes vont mater des films d'horreur, lire de la fantasy, adorer ça et s'en inspirer et créer leur musique. En revanche, le public qui, en général, qui aime les films d'horreur, qui aime lire de la fantasy, n'est pas forcément réceptif à ces cultures rock et métal. Et ça m'avait vraiment fait réfléchir parce que souvent on voit les choses de notre propre côté
Et quelque part, il y a beaucoup de nombreux lecteurs, par exemple, qui lisent de la fantasy et qui supporteraient pas d'écouter ou du pagan folk ou du metal, ou tu vois.
Qui sont loin de l'univers musical.
Mais du coup, nous, parfois, on l'oublie en fait.
Bah, c'est vrai, moi, ça me paraît tellement intimement lié. Bon, j'ai des genres musicaux de prédilection qui sont le gothique et l'électro. Pour moi, la musique électronique dans son ensemble, bon, c'est la bande son de l'univers de la SF, quoi. Ça peut pas être autrement, en fait. Je peux pas, j'imagine pas lire un roman science-fiction en écoutant du Mozart, quoi.
Pourtant, Karina nous parlait de son goût pour la musique classique et du fait que c'est possible de le.
D'accord.
Il y a des auteurs de SF qui écoutent du jazz.
Absolument, absolument.
Boris Vian.
Absolument, non, mais ça c'est mes goûts personnels, c'est ma vision personnelle du monde. On peut lire de la SF en écoutant du Mozart, c'est tout à fait permis. Hein. C'est pas du tout, je jette l'anathème à personne, ni à aucun genre musical. Hein. Mais pour moi, en fait, j'ai découvert ces deux mondes en même temps, en fait, quasiment. À la fois la science-fiction et ce qu'on appelait à l'époque la pop musique, donc qui recouvrait le rock et tous ses dérivés au sens large. Et notamment les premiers groupes de musique électronique allemands au début des années 70. Pour moi, c'était clairement la musique des étoiles, c'était clairement la musique des romans de SF que je lisais. Et bon, même si le genre s'est beaucoup diversifié, tant au niveau science-fiction que musique, pour moi, ce paradigme reste toujours, toujours valable, quoi. De même, bon, si je lis des romans fantastiques, pour moi, ça va s'accorder au rock gothique, quoi. Ça me paraît aller de soi. Bon, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais pour moi, ça va de soi.
Peut-être que Sir Cédric a abordé un point assez intéressant. Je pense à des films comme Chevalier, comme Lady Hawk, qui sont un peu datés. Mais...
Génial, Lady Hawk.
Ouais, moi, j'adore. mais où, justement, il y a un choix musical qui a dérouté certains spectateurs, parce qu'on n'est vraiment pas dans Chevalier, on est sur des trucs qui n'ont rien à voir avec du tranquille fantasy médiéval, alors qu'on est clairement dans un monde de chevaliers. Est-ce que c'est pas aussi le rôle de l'auteur et de l'auteur de littérature de l'imaginaire de bousculer un peu, est-ce que la musique c'est pas aussi un truc qui permet de bousculer les habitudes de chacun, de bousculer l'oreille autant qu'on bouscule à la lecture?
Il n'y a pas de musique dans les romans, donc sur un film peut-être, mais je sais pas, mais pour l'opéra il y a pas beaucoup d'opéras de science-fiction, il y en a quelques-uns. Par contre, il y en a énormément qui s'inspirent de livrets de romans ou d'histoires fantastiques. Il y en a des tonnes et des tonnes. Alors, bon, c'est pas le fantastique d'aujourd'hui, c'est pas le fantastique d'horreur. Mais après, bon, c'est le truc de convention. Hein. Qu'est-ce que tu vas associer à telle musique? Comment tu associes telle musique à tel mouvement de pensée ou à tel mouvement littéraire? C'est un phénomène social, c'est une convention, parce que théoriquement, la musique, elle est rien du tout. Elle est ni SF, ni...
C'est souvent, en fait, j'ai l'impression que c'est souvent l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas la littérature qui découle d'une culture musicale, mais certaines cultures musicales qui véhiculent un parti pris social ou intellectuel à des moments donnés, qui vont récupérer les codes. Enfin, je pense par exemple au cyberpunk, enfin, la musique technologique, qui c'est vraiment ça vient de la littérature, des concepts de se brancher à la machine, donc de prendre de la drogue pour que nos neurotransmetteurs soient compatibles avec la machine. Enfin, ça a donné les raves à une époque. Je pense que ces mouvements-là sont nés de concepts littéraires et c'est rarement l'inverse. Y compris en métal.
Je pense pas que l'électro soit né d'un concept littéraire. Je pense qu'elle vient d'une évolution de la société, d'une évolution technologique aussi qui apporte de nouveaux instruments. Et puis d'une envie de découvrir des nouvelles manières de composer, je crois. Qu'après, ça s'associe peut-être effectivement au même moment à un courant littéraire, mais pour connaître beaucoup de gens qui font de la musique, je vois pas tellement le pont, parce que ces gens
ne sont
pas... si, ils lisent, mais pas forcément, ils sont pas, ils sont pas ciblés sur une sorte de littérature, ça c'est sûr.
Il y a eu un courant de musique électro dans les années 90 qui se revendiquait clairement de la culture cyberpunk.
C'est ça que je pensais.
Avec soit les noms des groupes, les titres des albums, etc. Même Billy Idol a surfé sur la vague avec son album.
Ça, c'était mauvais, ça. C'était
très comme mauvais. Jean-Jacques Goldman.
Bon, je vois des groupes comme Icon of Call qui titrent des albums comme Machines Are Us ou The Soul Is In The Software. Bon, ça revendique clairement une culture cyber.
Ouais, mais quand tu regardes Kraftwerk ou des groupes comme ça qui ont quand même lancé tout ça,
consciemment, c'est absolument pas connecté
au cyberpunk. Et je pense qu'ils n'avaient pas une culture littéraire.
Non, on parlait pas. Il n'y avait pas de pont. Mais Kraftwerk ont été des pionniers.
Tangerine dans Dream, ou je sais pas, ou des trucs un peu plus. Parle dans le micro.
Pour moi, le rapport à la littérature est évident.
Bon, bah, alors, attendons le prochain mouvement musical qui
on va faire un match de boxe dehors.
qui naîtra du steampunk ou.
Non, mais du coup, le Pagan Folk récemment, bon, qui a un peu tout pompé à Dead Can Dance. Mais c'est devenu la bande-son de tous les nouveaux festivals de fantasy et celtique. Mais c'est une musique qui découle réellement des jeux de rôle et de la fantasy. Et c'est une musique qui est apparue assez récemment, en fait, sur tout ce qu'avait créé Dead Can Dance, bon, il y a longtemps.
D'accord.
Elle fait texte, ce genre de
fonction. Oui, je suis d'accord. Mais pas, je te dis, pas, on ne peut pas généraliser tous les mouvements musicaux, et notamment la musique électronique. Je ne suis pas certain que
tous courant, les créateurs... C'est un courant, la musique électronique.
Ouais. Mais ce dont tu parles, oui. Probablement beaucoup plus, ouais.
Bon, en tout cas, comme la musique adoucit les mœurs, je pense qu'on peut se quitter sur cet échange. Merci à tous.
Merci.